Club Estival.
Et bonsoir à tous, ou bonjour si vous êtes en Outre-mer, ou si vous écoutez la rediffusion entre 5h et 6h en métropole. Et surtout, soyez les bienvenus, voici le sommaire de cette 8e édition. Dans l'actualité culturelle ce soir, deux artistes phares de la chanson française qui se préparent à la sortie d'un nouvel album, très attendu pour chacun d'eux. Jeanne Chéral et Alex Baupin ont dévoilé un titre cet été en avant-première, titre qu'ils joueront tous les deux au piano, deux titres live donc ce soir. Bonsoir Jeanne Chéral.
Bonsoir.
Bonsoir Alex Baupin.
Bonsoir.
Merci d'être en direct sur France Inter, vous vous connaissez un peu je crois.
Ah oh oui.
Ah oh oui, oui.
Ça fait un petit moment qu'on se croise et on a fini par se parler du coup.
On s'aime bien.
On croyait faire la rencontre mais non.
On s'aime bien, c'est vrai.
C'est vrai ?
Oui.
Vous aimez ce qu'elle fait
et... ouais, j'ai déjà allé voir en concert, j'ai déjà chanté avec elle en concert.
C'est vrai,
enfin,
c'est vrai
voilà.
Qu'on a fait un duo l'année dernière.
On avait chanté du Souchon tous les deux à un concert à toi. Donc
ça
c'est quand même la preuve qu'on s'aime bien.
C'est, voilà. Mogam, on avait
c'est un vrai club
bon
ce soir, c'est le club estival. Nous irons aussi à Toulon dans le sud-est de la France, au bord de la mer, pour notre carte postale sonore grand format aujourd'hui, avec un débat sur le thème de la normalité des vacances, avec deux fortes personnalités. Michel Onfray et Franz-Olivier Gisbert étaient à Bandol samedi dernier pour un débat en public. Ils ont accepté une joute verbal qui va vous faire réagir. C'est en exclusivité dans le club estival. Il y aura aussi notre partenariat avec la presse régionale et ce soir un journaliste du journal La Montagne. Et puis nous serons avec Benoît Poulvorde en direct depuis Namur en Belgique. Il vous parlera de son intime festival qui commence vendredi.
France Inter, le club estival. Emmanuel Kérad.
Et chaque samedi soir, vous le savez, nous commençons cette émission avec une musique qui fait danser un pays quelque part dans le monde. Ce soir, on écoute le son de l'été au Liban. En ce moment, les Libanais écoutent Najwa Karam, qui est numéro un partout.
والعشق ما نغير قلبي ضعيف حنين والعشق ما نغير يا ويل طعم الجمال وقتي وابني راني يا ويل طعم الجمال وقتي وابني راني يوم اللي ناداني يا ملي كنت حقا معاني غواني
C'est le son de l'été au Liban, en club et sur le web, avec Alex Baupin qui danse dans le studio.
Ouais.
65 millions de vues et d'écoutes sur Internet. Numéro 1 des classements, c'était Najwa Karam. Et on part tout de suite à Toulon pour parler du concept des vacances, entre autres avec Franz-Olivier Gisbert et Michel Onfray.
Le club estival.
Pour cette carte postale sonore dans le club estival sur France Inter, nous sommes au bord de la mer. Bonsoir Franz-Olivier Gisbert.
Bonsoir.
Bonsoir Michel Onfray.
Bonsoir.
Merci beaucoup de nous accueillir ici. Décrivez-nous l'endroit où nous sommes, Franz.
Bah, c'est le paradis. Tiens, d'ailleurs, la villa s'appelle la Villa Paradis. C'est au Cap Brun. Et c'est à Toulon, en fait, hein, parce que c'est une espèce de presqu'île comme ça qui avance dans la rade de Toulon. Et c'est un endroit... d'une beauté absolument renversante. Moi, la première fois que je suis venu là, c'était il y a très longtemps, il y a 15 ans, je me suis dit, voilà, c'est là qu'on va passer nos vacances tous les étés. Donc, on passe tous nos étés, les vacances à Toulon, au paradis. Au paradis, parce que c'est vraiment le cas de le dire.
Bon, Michel, on vous a choisi un thème, une sorte de carte blanche, mais orientée quand même. Le concept des vacances et sa normalité, son impact sur la société. En bref, les vacances, est-ce normal ?
Oui, c'est le principe de la fête. C'est-à-dire, pour bien travailler toute la semaine, il faut un week-end. Pour bien travailler toute l'année, il faut des vacances. Et pour bien travailler toute la vie, il faut la retraite. C'est-à-dire, on a tout ça en perspective, cette idée qu'un jour, on aura du temps libre, un peu, et qu'on pourra vaquer. Moi, je prends pas de vacances à proprement parler.
Non, mais c'est important les vacances. Enfin, pourquoi est-ce qu'il faudrait que les Français travaillent tout le temps ? Enfin, moi, je suis pour la valeur travail. Je pense qu'une des grandes erreurs de la gauche, ça a été d'abandonner la valeur travail que la droite d'ailleurs n'a jamais vraiment reprise. Et la valeur travail, c'est important. Mais il y a des périodes, comme disait Michel tout à l'heure, il faut s'arrêter, il faut profiter, il faut faire la fête. Et donc, moi, j'aime ça, quoi.
Il ment en France.
Mais non, parce que c'est attends, pas, je vais te dire un truc. Vacances, on travaille, oui, ben mais voilà, on est heureux. Mais attends, on fait des courses.
On n'arrête pas de bosser.
Oui, mais on va au marché, on reste des heures au marché. Voilà, acheter des tomates, des machins,
des heures, parce qu'il fait chier tout le monde. Donc,
on parlait avec tout le monde.
J'ai une barquette, puis il va chercher l'autre barquette à côté.
Qu'est-ce que vous dites à ceux qui sont choqués par les hommes politiques d'envergure, président, premier ministre, député ou autre, qui prennent des vacances? Il y en a qui sont choqués par ça parce que ils se disent, ils n'ont qu'à être au travail, c'est un sacerdoce, et puis voilà.
Non mais c'est idiot, on sait très bien, enfin dans les entreprises, quand on a un bon chef d'entreprise, moi ça m'est arrivé dans ma vie, le big boss il vous appelle, il vous dit mais qu'est-ce que c'est que cette connerie, j'ai appris, vous n'avez pas pris de vacances depuis 8 mois, vous partez tout de suite là, c'est pas possible, etc. Il vous expliquera que voilà, de temps en temps, il faut arrêter la machine.
Michel Onfray.
Moi, je ne crois pas que Macron ne travaille pas, par exemple. Je pense qu'il travaille.
Il travaille en vacances.
Voilà. Non, mais pour les gens qui disent, les hommes politiques, peut-être un député ou un maire, ou j'en sais rien, mais je veux dire qu'un chef de l'État, un premier ministre...
Mais aussi, il travaille en vacances, il y a des incendies, il y a des trucs, toujours obligé de...
D'accord, je pense qu'ils emmènent leur dossier et puis ils travaillent en tongs et en short. Mais je pense que c'est une façon différente de travailler. Je pense pas que les hommes politiques, quand on a la charge de la France, on se dit pas pendant 8 jours, je fais rien, quoi, j'en fais le moins possible.
Et l'attitude vestimentaire, oui, justement, c'est intéressant ce que vous dites. Ça change beaucoup de choses, ça. De travailler en tongs au lieu d'être en costume, ça aussi, c'est une façon d'être en vacances, de s'alléger le corps, quelque part.
Oui, et puis, c'est ce que dit Franz, quoi, faire attention un peu à son corps. C'est-à-dire, on fait attention à ce qu'on mange, on va chercher des produits, des bons produits. Franz fait des confitures assez extravagantes, d'ailleurs, elles lui ressemblent. Ça s'appelle des confitures, mais ça devrait...
Je suis la reine de confitures, je suis désolé, des jaloux. Ah oui, la reine de confitures d'abricots et de fraises. Absolument, j'en ai encore fait, là. Bah, non,
tu es ma reine.
Les vacances, c'est un concept occidental, Michel Onfray.
C'est le concept des gens qui travaillent. Ça veut dire qu'il y a effectivement des endroits où le travail et le loisir sont mélangés. Enfin, on va faire de l'ethnologie, mais il y a des lieux dans lesquels on travaille pour produire et on ne fabrique pas des stocks. Donc après, on se repose. Donc on n'a pas forcément besoin de période de vacances. Là, c'est une logique de capitalisme qui fait qu'il faut être forcené. Le temps, c'est de l'argent. Donc il faut rentabiliser. Et en ce sens, oui, les vacances vont avec une société du travail assez forcenée.
Alors, tous les pays, on travaille. Que ce soit en Afrique, en Europe, partout, on travaille. Mais on n'a pas la même notion des vacances. Il y a des temps de repos. Mais ici, c'est vrai qu'en France, on a ce concept vacances avec le départ, la location, le voyage, l'organisation comme ça sur une semaine, 10 jours, un mois en fonction de ses moyens.
Bah, écoutez,
ça,
moi,
c'est occidental.
Oui, mais moi, je connais mon village natal, par exemple, où des paysans ne prennent jamais de vacances. Ouais. Ils ne peuvent pas. D'abord, ils n'ont pas les moyens. Ensuite, quand on a des vaches, comme on fait, il faut les traire. Et trouver des gens qui peuvent vous remplacer, ne serait-ce que 8 jours. Il ne s'agit même pas d'envisager un mois de vacances pour ces gens-là. Il y a donc des gens qui travaillent effectivement tout le temps, qui ne prennent jamais de détente ou de loisirs. Il y a d'autres endroits, dans certains villages africains, par exemple, où on ne prend pas de vacances non plus. Hein, il faut aussi imaginer que les vacances vont avec le pouvoir d'achat.
Bon, quand vous voyez ce paysage devant nous, François-Olivier Gisbert, on a toute la rade de Toulon hein, qui est juste derrière, Saint-Mandrier en face avec le port militaire, la base militaire même, et puis juste là, à 10 mètres, on est en hauteur, à 10 mètres, il y a l'eau comme ça, c'est une revanche pour vous, je ne sais pas ce que vous avez fait quand vous étiez enfant en vacances, mais de pouvoir vous payer ce type de vacances-là, d'être ici par exemple.
Ouais, c'est une revanche, évidemment, parce qu'avec mes parents, on faisait du camping. Hein. Donc effectivement, je joue cette maison, c'est ma seule folie. Ce qui est génial, vous venez de parler de la rade de Toulon, c'est ça. Moi, je suis sans doute, parce que j'ai été longtemps journaliste, une mentalité de concierge, et j'adore regarder les allées et venues sur la rade. Donc, j'adore, il se passe beaucoup de choses sur la rade de Toulon.
Dans votre essai Sagesse, Michel Onfray, vous posez cette question, quel usage faire de son temps ? Et c'est vrai que prendre son temps, prendre du repos, c'est essentiel, d'après vous et d'après de nombreux analystes, pour surmonter la société, pour la dépasser, la supporter aussi.
Oui, alors moi je crois pas en Dieu, ça se sait un peu, mais je veux dire
ça commence à se savoir.
On va en discuter. Moi je pense qu'il croit en Dieu, mais qu'il n'ose pas le dire. Il a le sourire niais du croyant, le même que le mien.
Donc.
Alors, tu te tais après ma première phrase. Je ne crois pas en Dieu, donc je crois que le temps est compté et qu'il n'y aura pas l'éternité. Donc effectivement, le bon usage du temps, il n'y a à peu près que ça, quoi. L'emploi du temps, qu'est-ce qu'on fait de son temps ? Et l'idée de dire « je vais passer ma vie à travailler, à faire une famille, à faire des enfants, à faire des bêtises », quoi. Eh bien, on peut, quand on est un philosophe, interroger tout ça, questionner tout ça et se dire « mais chaque seconde définitivement perdue, ou perdue et définitivement perdue, il n'y aura pas de rattrapage, ça ne reviendra pas, Et le sage usage du temps, à mon avis, c'est la préoccupation essentielle du philosophe. Ça devrait être.
Cette célèbre phrase d'Épicure, hein, c'est pas toi qui vas me contredire, la vie vient à peine commencer, qu'il faut déjà songer à partir. Et je crois qu'on doit penser à ça, c'est pour ça que les vacances sont faites pour ça.
Vous évoquez aussi l'éventuel effondrement de notre civilisation. Vous y croyez vraiment, Michel Onfray, à cela ?
Pourquoi vous dites l'éventuel ? Voilà. Oui, j'y crois, parce que ça marche comme ça avec toutes les civilisations. Et on n'est pas décadentiste quand on dit que les civilisations naissent, croissent, disparaissent et meurent. Et la nôtre, elle a déjà, on dira, 2 millénaires pour aller vite. Il me semble normal qu'elle donne des signes de faiblesse. Alors, ce n'est pas être un décadentiste que de constater effectivement que tout ce qui est meurt. Les étoiles meurent. Les civilisations meurent, comme les individus.
Donc, il y a une chose qu'on meurt aussi, c'est ça.
C'est une probabilité assez forte.
Alors, c'est bien ce qu'il dit, parce que ça rejoint votre livre Le Schmock, François-Olivier Gisbert, parce qu'il y a eu une forme d'effondrement de la civilisation à ce moment-là, quand il y a eu la montée du nazisme. Et vous analysez ça avec ce roman, vous expliquez comment, et vous vous posez cette question, comment des Allemands, des intellectuels, des philosophes d'ailleurs, ont pu laisser...
Des gens bien, souvent, enfin bien entre guillemets, évidemment.
Ont pu laisser les nazis s'installer comme ça.
Par indolence, par esprit de supériorité aussi, souvent. Ah oui. C'est-à-dire toujours l'idée, il est trop bête, il peut pas arriver au pouvoir. Et puis quand il est arrivé au pouvoir, il est trop bête, il peut pas gouverner. Et de toute façon, tout ça va mal finir. Enfin, ils vont dégager. Et ça s'est pas passé comme ça parce que les choses ne se passent pas toujours comme on le pense.
Vous avez vu le site de Michel Onfray ?
Oui, bien sûr.
Alors le site de Michel Onfray, michelonfray.com, que je suis allé voir, qui est très intéressant, qui est très bien fait. On peut s'y abonner à un prix raisonnable. Je vais me permettre une question, Michel. Êtes-vous plus un polémiste aujourd'hui qu'un philosophe ? Parce que vous y allez quand même, hein, tout le temps. Vous vous sentez comment, là, avec ce rôle-là de polémiste, puisque tout le monde croit que vous êtes polémiste aujourd'hui ?
Non, mais tout le monde le dit. Dès que j'ai commencé à faire un livre sur Freud... qui n'était pas un livre polémique, qui n'était pas un pamphlet, on a tout de suite dit que c'était un pamphlet.
C'est vrai que ça avait commencé là.
Eh bien oui, simplement parce que c'est facile de dire c'est un pamphlet, on ne prend pas ça en considération. Alors, sur ma Web TV, vous avez raison, sur le terrain politique, je suis combatif, on le dira comme ça. Je viens de faire paraître un livre qui s'appelle « La danse des simulacres » chez Bouquin Lafond, qui rassemble 18 livres positifs, pas polémiques du tout, consacrés à des peintres. Je dis du bien de vivants, cherchez des philosophes qui disent du bien de vivants. Hein. Moi, j'ai écrit 7 ou 8 livres pour dire du bien de gens qui sont très vivants. Les Garousse, les Adami, les Ernest Pignon-Ernest, etc. Pas un mot dans la presse. Rien du tout. Jamais. C'est-à-dire que quand je fais des livres polémiques, on dit « Regardez, c'est un polémiste, donc c'est pas la peine d'écouter ce qu'il dit, il dit n'importe quoi. » Quand je fais des livres positifs, on n'en parle jamais. Donc oui, sur le terrain politique, je pense qu'on a affaire à... On a affaire à un chef de l'État qui est agressif, combatif. On a le droit d'être agressif et combatif. Moi, je me suis viré de France Culture parce que ça ne plaisait pas au pouvoir. Et bon, et il a raison de me mettre à la porte. Mais j'ai aussi raison de faire savoir ce que je pense. Il y a plein de gens qui pensent comme je pense aussi. On n'est pas forcément polémiste quand on prend position sur la politique, sur le traitement des Gilets jaunes, sur cette façon de dire des Gilets jaunes tout de suite et immédiatement qu'ils sont des antisémites, des homophobes, des racistes, des xénophobes, etc. On peut faire savoir, même sur le ton de la plaisanterie, de l'ironie et du pamphlet. Vous avez raison, j'utilise le rire et ça vaut ce que ça vaut.
Vous allez un peu trop loin parfois, non ? Vous parlez d'homophobie justement.
Oui.
On vous a reproché ça un petit peu aussi, oui. La misogynie aussi.
Oui, mais...
Parfois vous dérapez ou pas ?
Non, pas du tout. Non. On m'a reproché l'homophobie pour quelle raison ? J'ai fait un article sur ce doigt d'honneur avec deux garçons en Martinique pour expliquer, comme dirait l'autre, qu'un président ça ne fait pas ça.
À Saint-Martin.
C'est ça. Et donc j'ai expliqué pourquoi. Et j'ai filé la métaphore du doigt en disant il y en a 5 et les cinq doigts, je vais prendre des affaires concernant Macron. La première, la deuxième, la troisième, la quatrième, la cinquième. Et on a dit, on ferait homophobe. Bien sûr qu'il est homophobe, regardez, il est en train de dire quoi, il suppose quoi. Je dis rien du tout. Je dis, il adore être dans les bras des garçons qui sont en train de faire un...
Torse nu, etc. Vous avez décrit la scène.
J'ai décrit la scène.
Un peu sexualisée.
Pas du tout, tout le monde l'aura compris. Il y a les faux culs qui disent, mais il n'y a rien à voir de ce côté-là. Et puis ceux qui disent, bon...
Ah non,
mais...
Donc vous n'avez pas dérapé.
Mais bien sûr que non.
D'accord, donc vous assumez ça.
Mais je ne
suis... Tout ce que vous dites, vous l'assumez.
Bien évidemment. J'ai juste dit, un président ne devrait pas tolérer une photo pareille et on n'a pas retenu ça. C'est pas ce qu'on a retenu.
François-Olivier
Gisbert. Je suis totalement con pour être homophobe et je pense pas que Michel Onfray, jusqu'à preuve de contraire, soit con. Non, je pense pas.
Soit con, d'accord. Je t'allais dire que je sois homophobe. Tu devrais le savoir.
Je pense pas. Non, puis alors, il y a le mot, Emmanuel, il y a le mot de dérapage, moi, qui me choque toujours un peu parce que la vie des idées, c'est pas une autoroute où tout le monde doit aller dans la même direction. Moi, je trouve qu'on perd beaucoup de diversité.
Est-ce que vous avez l'impression de déraper?
Oui, mais je pense qu'aujourd'hui, là.
C'est pas un jugement.
Oui, oui. Non, mais j'étais pas. Moi, je trouvais que tu allais trop loin, c'est tout. Non, mais j'ai jamais pensé à seul moment que tu étais homophobe. homophobe. Je pensais que tu allais loin dans les polémiques, mais moi, je veux dire, quand je te dis ça, tu comprends, je suis très mal placé, parce que moi, ça m'arrive aussi d'aller extrêmement loin dans la polémique et d'écrire des choses que je regrette le lendemain ou le surlendemain. Ça peut arriver. Mais ça, attends, c'est ça l'esprit de la polémique. Et puis, ce ne sont pas des dérapages. Non, mais il faut arrêter avec ça. C'est-à-dire, là, on est en train d'essayer de créer du prêt-à-penser. Là, tout doit être pareil partout. C'est insupportable. Cette vie des idées en France est en train de crever de ça. C'est-à-dire, ah là là, il a dérapé. Ben oui, il a dit un truc qui n'était pas tout à fait dans voilà. Le mainstream, mais pourquoi pas.
Vous avez la liberté de le dire, en tout cas, sur France Inter ce soir.
Ben oui, on est très heureux. Et merci Emmanuel Queyrade.
Bon, merci beaucoup à tous les deux. Merci François-Olivier Gisbert.
Merci
Michel Onfray. Merci, c'était très agréable parce qu'on est sur une terrasse de plein air avec la mer qui est à nos pieds et une petite tour en pierre qui est construite. C'est très joli.
Oh, mais c'est ça le paradis.
C'est sublime.
Mais oui, c'est le paradis. C'est le Cabrin.
Merci, bonnes vacances à vous.
Merci beaucoup. Merci.
Le Club Estival. Emmanuel Queyrade. Sur France Inter.
Et chaque semaine, nous sommes en partenariat avec un journal régional. Ce soir, on part du côté de Clermont-Ferrand avec le journal La Montagne et Pierre-Olivier Février, journaliste culturel. Bonsoir Pierre-Olivier.
Bonsoir.
Dans l'actualité de votre région, il y a un festival de musique baroque atypique, improbable même, comme vous l'écrivez dans un article paru aujourd'hui.
Improbable parce qu'il est 100% dédié à Bach et à l'œuvre de Bach. Voilà, et ça c'est assez unique, de la musique de Bach on en entend beaucoup, mais des événements qui se consacrent uniquement à lui, c'est plus que rare.
Oui, et c'est à Pont-au-Mur, dans le Puy-de-Dôme, à 40 km de Clermont-Ferrand, c'est une petite commune de 650 habitants?
Alors c'est à Pont-au-Mur, mais pas seulement, Bach en Combrailles, donc il y a Bach et il y a Combrailles. Et Combrailles c'est un territoire qui se trouve à l'ouest du Puy-de-Dôme. Ouais. Voilà, il y a des concerts absolument partout sur ce territoire et la musique de Bach fait l'unité sur ce territoire.
Et vous dites qu'il a fallu construire des choses pour ce festival.
Alors, il a fallu construire des choses, notamment un orgue qui est la réplique de l'orgue sur lequel Bach lui-même a fait ses gammes. Voilà, dans l'église de Pont-au-Mur.
C'est un dentiste qui a eu cette idée-là un jour?
Pas du tout.
Non, un vétérinaire?
C'était un vétérinaire.
Oui, c'est voilà, ça, pardon.
Qui était passionné de la musique de Bach et qui a transmis cette passion à beaucoup de personnes et qui aujourd'hui anime vraiment tout un territoire. Et c'est pour ça que le festival, aujourd'hui, a 20 ans, grâce à cette passion qui est toujours la même.
Quelle est l'ambiance alors? Quel est le décor en ce moment, puisque vous êtes sur place là?
Alors, le décor, c'est bien simple. Les Combrailles, c'est un de ces nombreux paradis que nous avons en Auvergne. C'est le meilleur endroit pour admirer la chaîne des puits, les fameux volcans d'Auvergne. Et c'est surtout donc des vallées tout à fait verdoyantes. Et puis surtout un petit patrimoine qui permet d'accueillir une multitude de concerts dédiés à Bach, bien sûr. Et aussi à tous les compositeurs qu'il a su influencer. Mmh.
Bon, c'est la 20e édition, vous l'avez souligné, de ce festival Bach en Combrailles avec le grand compositeur Philippe Hersan aux commandes. Merci beaucoup Pierre-Olivier Février.
Bonne journée.
On salue tous les lecteurs de La Montagne et tous les auditeurs de France Inter en région Auvergne-Rhône-Alpes. Je vous le disais dans le sommaire, ce soir deux titres live en direct dans notre studio. Jeanne Chéral est installée au piano. Elle se frotte les mains sur son jean. Tout va bien Jeanne, vous êtes bien?
Je crois que je suis pas mal.
Vous êtes pas mal. Elle interprète un extrait de son prochain album. C'est en avant-première dans le Club Estival. Vous avez sans doute dû entendre ce titre dans la playlist de France Inter. Voici Jeanne Chéral avec L'An 40 en direct dans le Club Estival.
Un avis nouveau, une envie nouvelle, on la deviendrait fatigante, n'est rien de plus que l'an 40. Elle est un peu cabrie, un peu gazelle, et brûle d'amour du cœur au ventre. Cette eau qui bouillonne, où la puise-t-elle? Tout ce que l'on sait, c'est qu'elle entre avec le sourire en l'an 40. Quelques années, quelques séquelles, quand elle sera sur d'autres pentes, en pleine sagesse, du moins le croit-elle, pour accompagner la descente, elle se souviendra de l'an 40.
Jeanne Chéral, l'an 40, en direct dans le club estival sur France Inter. Bravo. Merci Jeanne, sous les yeux émus d'Alex Baupin qui vous applaudit. Elle avait le trac, Jeanne, et c'est incroyable parce qu'elle a fait des centaines de concerts piano-voix, et elle a encore le trac, et à chaque fois que vous jouez, vous avez joué dans la librairie francophone aussi, au piano, vous avez le trac comme ça.
Bah ouais, c'est quelque chose qui se contrôle pas, hein, c'est mais vrai. Ouais, je sais pas comment l'expliquer. Mais je trouve que la radio, ça apporte un trac particulier.
C'est vrai, pourquoi?
C'est ce qui me fait le plus peur, en fait, moi.
Ah ouais?
Je sais pas, parce que c'est abstrait. On sait qu'il y a plein de gens qui écoutent et en même temps, oui, ils voient pas. Enfin, oui. C'est assez abstrait.
Sur la route, là, en ce moment, d'ailleurs. Ils vous ont écouté. On vous a découvert au début des années 2000, donc, avec ses concerts piano-voix, à la manière de Scheller, Barbara ou de Véronique Sanson, vos modèles. Vous avez commencé, d'ailleurs, comme ça, la musique, en imitant même Scheller lorsque vous étiez enfant? Au piano?
Alors, en l'imitant, peut-être pas, mais en tout cas, j'ai appris le piano en le reprenant.
Oui.
En reprenant son album Scheller en solitaire, qui est sorti quand j'avais 12-13 ans et qui a été pour moi, qui a été ma formation.
Ouais,
quoi.
C'est ça, ouais. C'est un combat, c'est une bataille de jouer du piano?
Ça peut l'être, mais c'est presque un acte physique d'amour,
ouais,
quoi.
Ouais.
C'est un instrument qui englobe, quoi. Moi, j'adore ça.
Il n'y a rien de plus sensuel que quelqu'un qui vous joue un air au piano.
Ah oh bah moi je
c'est
trouve
vrai.
Ça ouais, très, ah ouais, très
moi,
sensuel,
moi je fonds à chaque fois.
Puis ça groove, enfin c'est orchestral quoi, on peut
c'est
tout
vrai,
faire au piano.
Ouais. Alex Baupin, quel rapport vous entretenez avec cet instrument? Vous avez appris le piano en famille vous aussi?
Moi j'ai appris le piano parce que ma mère m'avait mis, ma sœur et moi, nous avait mis au piano classique. J'ai arrêté vers 16 ans, puis beaucoup plus tard je me suis rendu compte qu'on pouvait s'en servir pour chanter des chansons, et moi j'adorais chanter des chansons. Mais moi je regardais Jeanne jouer, là ce que je trouve bien chez Jeanne c'est que c'est aussi une instrumentiste, moi j'ai un rapport beaucoup plus fainéant au piano, peut-être parce que je me disperse et que je fais d'autres choses, enfin je me trouve ça comme excuse, mais non mais quand elle parle du fait que moi le piano pour moi ça a vraiment toujours été un moyen d'écrire des chansons,
ouais,
après
ouais,
de les faire arranger, que d'autres personnes m'accompagnent, souvent des pianistes que je trouve beaucoup plus doués que moi en fait, mais moi je l'utilise plutôt comme un moyen, tu vois ce que je veux te dire, alors que quand je la vois la jouer je me dis putain quand même ça doit être cool d'avoir travaillé en fait tout simplement. Moi je l'ai pas fait.
Elle fait corps avec le piano. Ce titre l'an 40 évoque votre quarantaine ou en tout cas la
ouais,
quarantaine. Alex Baupin lui aussi avait fait une chanson sur la quarantaine sur l'album Après moi le déluge, vous vous souvenez Alex?
Oui, ça s'appelait En quarantaine.
C'est ça.
Quelle bonne idée.
Quelle bonne idée. C'est vrai que vous disiez comme ça sur une musique très mélancolique que désormais nous avons des amis de 20 ans, que nous avons l'âge de nos parents, de vrais appartements aussi, enfin c'était un petit peu plombant.
C'était un peu moi aussi.
Oui. Alors que chez vous, Jeanne, c'est beaucoup plus léger, beaucoup plus souriant.
Ouais, bah j'ai pris un angle différent. Enfin, ouais. J'ai adoré avoir 40 ans. J'ai adoré cette année. Enfin, c'est l'année où j'ai écrit mon disque. Et c'est vrai que du coup, ça, je pense que ça s'en ressent effectivement dans ce texte. Quoi, je trouve que c'est, en tout cas, de ma fenêtre, je trouve que c'est un âge très équilibrant. Très...
Ouais.
J'aime bien.
Bon, sur la pochette de ce nouvel album que j'ai la chance d'avoir, puisqu'il sortira en septembre, vous avez comme ça un bras levé en débardeur, avec des poils bien visibles. Quel est le message, Jeanne Chéral?
Oh bah, je sais pas s'il y a un message. Hein. Enfin, des fois, les images parlent d'elles-mêmes. Ouais. C'est un disque. J'avais envie d'être la plus naturelle possible en fait sur cet album, la plus moi-même et la plus.
C'est un engagement quand même féministe, non?
Je pense, mais oui.
Je pense.
Oui, ça... non, mais en fait, c'est
genre,
vrai que
j'ai levé le bras, j'ai pas fait exprès.
Non, c'est sûr que j'étais dans cet état ouais. Le jour de la où on a fait cette photo avec Mathieu Zazo, le photographe. Et quand j'ai vu les photos, je me suis dit évidemment c'est ça quoi, c'est ça que je veux dire, c'est ça que je veux. Mm-hmm. C'est une femme voilà qui assume son corps qui n'est pas nickel. Évidemment c'est une démarche féministe, mais c'est aussi un manifeste de liberté.
Un manifeste, oui, c'est ça. Ouais. Ce nouvel album, d'ailleurs, c'est l'histoire d'une femme libre qui est assumée, qui mesure d'ailleurs la chance de vivre dans un pays libre et paisible. Une femme qui cultive l'amour, l'amitié, ce qui va ensemble d'ailleurs. Elle assume cette vie-là, elle en est heureuse. Vous en êtes heureuse, vous, de votre vie?
Bah ouais, oui, j'ai l'impression d'être privilégiée, hein, c'est sûr, et d'en prendre conscience de temps en temps, et puis après de me remettre à râler. J'en parle dans une chanson d'ailleurs.
Oui, c'est vrai.
Et je pense que c'est un disque assez épanoui. Enfin, là où j'en suis aujourd'hui, en tout cas.
Personnel, très personnel.
Ouais, c'est très personnel.
Et ça va jusqu'au bout, parce qu'à la fin, il y a un titre très émouvant qui m'a beaucoup ému parce que j'étais là.
Ah.
C'est un adieu. Adieu à Jacques Higelin,
ouais.
Lors de la cérémonie.
Vous
étiez là ? Ouais. Ouais. Il y avait le cirque d'hiver aussi, dont vous parlez.
Ouais. Bah, la chanson raconte ce moment dingue qu'on a vécu au cirque d'hiver. C'était en avril dernier. C'était en avril 2018.
En avril, oui.
2018.
Ouais, déjà un an et demi.
Ces trois enfants, Isia, Ken et Arthur, ont orchestré une cérémonie complètement incroyable, festive. C'est un nouveau. Arthur parlait d'un nouveau rite, et c'était vraiment ça, quoi.
Et vous avez été aidé, vous, hein, et soutenu par Jacques Higelin. Vous avez fait ses premières parties, d'ailleurs,
ouais,
de concert.
J'ai commencé en faisant ses premières parties. Ouais. Ouais. Un duo sur mon deuxième album. Ouais. Il avait eu la gentillesse de venir chanter avec moi. C'était un cadeau.
Bon, c'est une très belle chanson, en tout cas.
Merci.
Elle dure plus de 4 minutes. Elle est vraiment parfaite, Jeanne. Vraiment. Non, mais c'est vrai que c'est très difficile de. Je me suis dit que vous avez fait un texte là-dessus, ça va être compliqué. Et quand j'ai commencé à écouter le titre, j'ai dit oh là là. Et en fait, non, c'est très bien fait. Bravo.
Bah, merci.
Bon, c'est un bel hommage. Merci beaucoup, Jeanne Chéral.
Merci,
vous restez bien sûr avec nous. Votre nouvel album sortira le 20 septembre. Et vous serez lundi dans le Mac de l'été à 18h pour en parler plus en détail. Un grand entretien avec ma consoeur Anna Sigalevitch qui va plaire à tous vos fans, j'en suis sûr. Alex Baupin est aussi en plateau avec nous, et puis un titre en piano lui aussi tout à l'heure. Lui aussi sort un nouvel album à la rentrée, mais avant, un petit plaisir personnel et un souvenir pour tous les cinéphiles. Écoutez.
La tour Eiffel t'ennuie déjà. Est-ce la tour Eiffel ou bien moi? Je peux vivre sans toi.
Un extrait du film Les Bien-Aimés de Christophe Honoré, cette chanson qui dit tout sur l'amour. Vous avez tout dit ce jour-là, Alex Baupin. On a tous pensé ça un jour. Je peux vivre sans toi, le seul problème, mon amour, c'est que je ne peux vivre sans t'aimer. Qu'est-ce que je l'ai dit et pensé,
c'est
ça.
Vrai.
Oui, c'est vrai.
Moi, je l'avais un peu. C'était un peu une façon d'écrire une suite à cette chanson dans Les Parapluies de Cherbourg qui dit je ne pourrai jamais vivre sans toi.
Ouais.
Moi, je voulais, comme c'était Deneuve qui la chante à la fin du film, le truc. Je me disais tiens, ce serait rigolo d'avoir un petit clin d'œil. Et je me suis dit tiens, j'ai trouvé cette formule là, qui c'est vrai que j'ai pu me dire aussi moi des fois, bien sûr.
Vous aimez bien les chansons sentimentales et mélancoliques, hein. C'est un peu votre marque de fabrique. Ça vous fait du bien les chansons tristes, vous?
Bah, déjà, c'est ce que j'arrive à faire. C'est pas tellement que c'est ma marque de fabrique. Moi, j'essaie de faire les chansons que j'arrive à faire. Non, mais bêtement, c'est pas si. C'est, puis c'est assez instinctif de faire des chansons. Enfin, je sais pas comment Jeanne procède, mais moi, quand j'écris une chanson, je me dis pas, tiens, c'est moi, je suis tellement mélancolique et machin, tout ça. Non, j'écris simplement les chansons qui me viennent. Souvent, elles sont pas très bonnes, alors je les jette. Et puis, quand j'ai la chance d'en trouver une où je me dis, bon, ça, ça va, c'est digne, je les garde, quoi. Alors, sans doute que mon tempérament profondément est d'aimer les chansons mélancoliques, pas d'être un garçon, je suis pas particulièrement mélancolique, moi, dans la vie.
Non, c'est vrai.
Je suis un garçon plutôt joyeux.
Très
plutôt,
drôle. Voilà. Vous êtes très drôle.
Bon, en tout cas, moi, je me trouve drôle, après. C'est pas le cas de tout le monde, hein. C'est souvent le drame. C'est souvent le drame des gens qui pensent qu'ils sont drôles.
Oui, c'est ça.
Mais sans doute que, en tout cas, c'est les chansons que moi, je préfère écouter. Oui, bien sûr. Ouais. Et je crois qu'on fait toujours les albums ou les chansons qu'on a envie d'écouter, tout simplement.
C'est vrai. Et la musique, c'est souvent un refuge pour nous tous, d'ailleurs. Quand on n'est pas bien, ou au contraire, quand on est très en forme, la musique nous porte.
En tout cas, ça l'a été beaucoup. Ça l'est peut-être d'autant plus quand on est plus jeune. Moi, je crois qu'on n'est jamais autant ému par la musique ou des chansons que quand on est adolescent. Moi, je crois que c'est les chansons qui m'ont le plus marqué, celles que j'ai écoutées à ce moment-là, peut-être parce qu'on a une réceptivité à ce moment-là, quelque chose qu'on perd un peu après, ce que je déplore. Mais moi, il se trouve que je reviens tout le temps aux mêmes albums et aux mêmes chansons parce que c'est celles que j'ai entendues entre peut-être 12 et 18 ans, 17 ans, quoi.
On exorcise des choses aussi.
Ouais, je crois. Et puis aussi que moi, j'habitais en province et tout, c'était aussi une façon très, très, très agréable de lutter contre l'ennui, d'écouter de la musique et des chansons et de rêver à ces choses-là.
Bon, votre sixième album sortira en octobre.
Quoi ? Bah, on est vieux, quoi.
Mais non, six albums, Alex, ça va. On en parle dans 20 ans. Il y a encore des chansons sentimentales, évidemment, qui sonnent très intimes. Quand vous parlez de l'amour charnel, par exemple. L'amour charnel, c'est quelque chose qui vous intéresse particulièrement.
Oui, oh non. C'était moi quelqu'un que ça intéresse
pas. C'est surfait.
J'étais parti sur une autre question, mais je me suis mangé.
Si vous voulez, on s'en tape.
Non, Emmanuel, j'adore le cul. C'est ce que vous voulez que je vous dise un peu crûment. Non, mais plus simplement, c'est aussi peut-être des... Moi, j'ai l'impression que l'amour charnel, c'est peut-être un domaine qui est moins... qui est moins accosté par les garçons que par les filles dans les albums. Je trouve que
filles... Ah bon, tu trouves ?
Ah ouais. C'est vrai.
Non, mais je parle de le parler sans passer par le cynisme ou par la pornographie. Je parle d'une façon d'en parler. Moi, je trouve que les filles ont toujours été vachement plus audacieuses, dans une façon.
Plus directe, peut-être ?
Ouais, plus directe, plus crue, mais sans que ça soit de la provocation, quoi. Ou de la provocation, du cynisme ou de la pornographie. Et moi, j'aime bien, toujours avoir une chanson un peu de cul, quoi, mais qui soit un peu jolie.
Les relations amoureuses avec la séparation aussi. Vous évoquez la séparation dans Tout le contraire de toi. Voici un extrait en avant-première, écoutez.
Surtout ne va pas dehors, il y fait moche et froid. Tout l'inverse de ton corps, tout le contraire de toi. Tout le contraire de toi. Je voudrais m'en aller mieux et te regarder en face. Hélas, une douleur aux yeux.
C'est compliqué la séparation, Alex Baupin. Pour vous, ça a été compliqué, vos séparations ?
La première, oui, parce que c'était un deuil, en l'occurrence. Dans ces cas-là, c'est toujours un peu compliqué.
Ça, c'est pas une séparation, c'est un départ.
C'en est une, quand même. Ouais. C'est quand même une séparation. Après, ça devient de moins en moins. Et d'ailleurs, avant, j'avais tendance à écrire des chansons de séparation un peu méchantes.
Oui.
Et celle-ci est plutôt une chanson de séparation assez douce et même assez... où on sent qu'on continue à aimer la personne qu'on quitte, quoi.
C'est délicat, ouais.
Je crois que plus ça va, plus je suis délicat dans mes séparations. Et tant mieux, parce que franchement, je partais de loin.
On a beaucoup entendu Cours Camarade sur France Inter. Vous allez le jouer au piano dans quelques instants. C'est l'une de vos rares chansons politiques inspirées par un slogan de mai 68.
C'est à cause de vous, c'est à cause de France Inter.
Ah bon ?
C'est Didier Avaro qui a fait une foule sentimentale où il demandait à des jeunes auteurs, enfin des jeunes et moi, à des auteurs compositeurs d'écrire à
les jeunes et les matures.
Il a mis ça.
D'écrire d'après un slogan de mai 68. Moi, j'avais choisi Cours Camarade, le vieux monde est derrière toi, parce que je trouve que la phrase est jolie, tout simplement. Ouais. Bon, après, il faut s'y coller. Donc, j'avais écrit cette chanson pour cette émission. Et comme je vous le disais, moi, des bonnes chansons, plus je vieillis, moi, j'en écris. Donc, celle-là, je me disais, tiens, elle marche pas mal, donc je l'ai mise dans mon album. Voilà. Ouais. Mais c'est grâce à France Inter.
D'accord. Attention. Et quand vous écrivez sur Orlando, sur la fusillade dans un club gay en Floride en 2016, il y a cette chanson Orlando. Mm-hmm. Ça vient d'un engagement, ça vient de quoi ce titre-là ?
Ça vient d'un besoin que j'avais dans cet album de raconter un peu plus le monde que dans les albums précédents, je crois. Je crois qu'à un moment donné, moi j'ai besoin, mais comme tous les chanteurs, de me renouveler un peu à la fois musicalement, et ça c'est en allant chercher d'autres producteurs, mais aussi thématiquement, de ne pas raconter que des choses autobiographiques ou que des chansons sentimentales. Et donc il se trouve que dans cet album, il y a 10 chansons, et la moitié des chansons, il y en a 5 qui parlent un peu de l'état du monde, quoi. Mmh. Et effectivement, moi, ce moment des... Je savais pas comment aborder les attentats. Je sais que, par exemple, Jeanne, c'est quelque chose qu'elle a fait dans une chanson qu'elle avait écrite pour Johnny, par exemple.
Mmh. Ouais, c'est
bien,
vrai. Un dimanche
que sur
janvier.
Ce thème de l'homophobie, il y a un oxolo aussi que t'avais écrit. Enfin voilà, ouais. On a tous comme ça des préoccupations. Et que moi, ouais, ça me tenait à cœur de parler de ça, effectivement.
Bon, je vous propose de vous installer au piano, Alex Baupin. Nous sommes en direct sur France Inter pour ce club estival très musical aujourd'hui. Deux titres live, c'est la première fois dans cette émission. Après Jeanne Chéral, voici Alex qui est très efficace. Hein. Il s'installe au piano avec une rapidité. Je ne l'ai même pas vu. Le temps de me retourner, il est installé. Voici donc Alex Baupin qui se prépare. C'est bon Alex, tout va bien ?
Ouais, de toute façon, ça ne peut pas être pire.
Alex Baupin, cours camarade sur France Inter.
Cours, camarade, le vieux monde est derrière toi. Les barricades, les voltigeurs et puis quoi. Cours, camarade, les épaves de pavés, les bousculades. Et puis après, cours, camarade, le vieux monde sent la poussière, dernière ruade, et on l'enterre à Nanterre. Cours, camarade, redis-nous ton beau discours. Sur ton estrade, le poing levé, le cœur lourd, camarade, le vieux monde reprend son souffle. Quelques décades, et tu rentres dans ses pantoufles. Cours, camarade, tes affiches et tes slogans. Les brades pour vendre des brosses à dents. Cours, camarade, le vieux monde t'a rattrapé. Il est malade, tout prêt à agoniser. Cours, camarade, comme tu en crèves avec lui. T'as des bandades comme on en crève aujourd'hui, comme on en crève aujourd'hui. T'as des bandades comme on en crève aujourd'hui.
Cours camarade d'Alex Baupin en direct dans le club estival là, sur France Inter au piano après Jeanne Chéral. Merci beaucoup pour ce cadeau, c'est un grand plaisir. Je resterai encore 2 heures avec vous, moi. C'est formidable, magnifique, Alex.
Oui, merci. Je suis content de l'avoir fait. Je suis content que ça soit passé.
Je suis content que ça soit passé.
Qu'est-ce qu'on a après?
Après, on a Bona Boulevard qui arrive là. Bon, vous aimez chanter en français, hein. Vous dites que c'est un côté plus mélancolique que l'anglais, qu'il y a plus d'intensité dans
J'aime
une chanson.
J'aime écrire et chanter en français parce que je trouve que c'est une langue qui se prête effectivement à plein de choses, contrairement à ce qu'on dit, et qui sonne. Simplement, il faut pas essayer de la faire sonner comme l'anglais, par exemple. Mm-hmm. C'est idiot. Donc, voilà. Et puis, c'est aussi que vous m'avez jamais entendu chanter en anglais, mais je l'ai fait au début de ma carrière. Les gens rient dans la salle. Même quand je chante des chansons, j'ai un accent anglais.
Les gens sortent.
C'est pire que Maurice Chevalier. Tu vois comment ils aiment Maurice Chevalier,
ouais.
Jeanne?
Ouais.
Moi, c'est pire. Donc oui, les gens s'en vont, généralement.
Jeanne Chéral, vous avez tenté l'anglais?
Mais en fait, je me pose même pas la question. C'est tellement un bonheur, franchement, d'écrire en français. C'est tellement riche et
il faut porter la francophonie, on est bien d'accord.
Bah, je sais pas, moi je me pose pas la question. En tout cas, ça vient comme ça.
Bon, vous partez en balade ou en vacances, Alex là ?
Non, je pars en résidence pour travailler mes concerts de la rentrée. J'aime pas beaucoup les vacances, moi, j'avoue.
C'est vrai.
C'est vrai que tu m'avais dit ça une fois.
Mais parce que j'ai fait un métier où je fais que m'amuser. Qu'est-ce que j'ai à foutre d'aller prendre des vacances ? Je comprends que les gens qui s'ennuient ou qui aient besoin de vacances, mais moi, je m'amuse tout le temps.
Vous faites le lien avec Michel Onfray et François-Olivier Gisbert tout à l'heure. Vous êtes parfait.
On est dans la même lignée.
Ouais, la même lignée.
Michel, France, c'est moi.
Bon, merci beaucoup. Le nouvel album d'Alex Baupin, Pas plus le jour que la nuit, sortira le 4 octobre. Merci beaucoup Alex Baupin.
Merci.
Vous êtes adorable, je tiens à le souligner. Alors. Et vous êtes généreux. Merci, merci Jeanne. À bientôt.
Merci, à bientôt.
Au revoir.
Champ libre.
Champ libre.
Libre.
Champ libre.
Champ libre.
Champ libre ce soir avec le parrain du club estival. Il était là pour la première émission l'été dernier quand on a créé le programme. Bonsoir Benoît Poulvorde.
Bonsoir Emmanuel.
Comment allez-vous Benoît?
Bonsoir. Comment vais-je?
Oui.
Très bien, je vous remercie. Et vous, ça va, ça se termine ces vacances? Vous avez tenu le coup, Emmanuel?
J'ai tenu le coup, tout va bien. Merci d'être fidèle à nos émissions, Benoît, que ce soit celle-ci ou la librairie francophone.
Enchanté.
L'Intime Festival commence vendredi à Namur. C'est un festival magique. J'ai eu la chance d'y aller plusieurs fois et le théâtre est plein à craquer pour voir des auteurs et des artistes qui lisent des textes. C'est à la fois intime et intense comme moment, ça, Benoît.
Oui, c'est intime et intense. Au début, c'était pas gagné, hein. Emmanuel, faut vous le dire, je me suis dit, s'asseoir, écouter, bon, c'est pas nous qui avons inventé les lectures, mais à Namur, c'était pas gagné d'avance, et donc, je trouve que c'est la 7e édition, et je trouve que c'est toujours une découverte. Je suis toujours content de voir les gens revenir, ils sont assez fidèles. Alors, pour faire un peu de démagogie galopante, je vais dire que le festival leur appartient maintenant.
Ouais. Et ouais. C'est vous qui avez eu cette idée-là. Vous êtes un amoureux des livres.
Avec Chloé, parce qu'en fait, c'est Chloé qui peut répondre à vos questions. Je suis ravi de le faire parce que je suis le parrain un petit peu de votre émission, en effet.
Oui.
Et que moi qui suis quand même le directeur général, le président, enfin, donnez-moi tous les titres que vous voulez. Et c'est plus vraiment moi qui m'en occupe.
Oui.
C'est-à-dire que c'est Chloé Colpé qui s'en occupe et moi je supervise un petit peu, je donne mon avis ici par là. Mais surtout, je viens en spectateur et je viens, j'accueille et je découvre avec les autres, avec les gens. Ce qu'on a invité, le travail qu'on propose, enfin les différentes choses qu'on propose.
Ouais, la littérature permet de comprendre le monde, c'est ce que vous dites d'ailleurs, et surtout de partager des idées, c'est ça qui vous intéresse Benoît Poulvorde, l'échange et le partage.
De partager des idées en prenant le temps de les formuler et d'écouter l'autre. C'est pour ça que déjà rien que l'écoute, s'asseoir 40 minutes, une heure pour écouter un texte, c'est pas la même façon, on n'écoute pas comme on lit, mais rien que ce petit effort-là, et ensuite... Je pense une belle réussite dans le festival, c'est l'après-festival, c'est l'entre-festival, c'est les gens qui se rencontrent d'univers totalement différents, et c'est très agréable. Donc je conseille même de se préparer, d'avoir un assez bon foie, parce que il n'y a qu'un seul bar, mais ce bar est quand même aussi un bel endroit de rencontre.
Oui, il est bien achalandé.
Et alors j'adore ce moment-là, parce que tout le monde se rencontre, et même des gens qui ne savaient pas, ne s'appréciaient pas, ou ne se connaissaient pas, finissent par se découvrir.
Ouais,
et je trouve que le Festival de la Ville, pour ça, on a fait une belle réussite.
Avec de la bonne bière de Namur, d'ailleurs, dans ce bar.
Avec de la bonne bière de Namur, mais je ne vais pas faire l'apologie de l'alcool, mais surtout, avec des discussions qui n'en finissent pas, des rencontres. Et il n'y a pas que de la littérature, il y a des cartes blanches, donc ça permet de rencontrer des tas d'expressions artistiques. Il y a de la photo, il y a de la musique, et puis plein de gens de milieux différents, divers différents, se croisent. C'est pour ça que j'adore venir encore au festival, je ne sais pas si c'est... J'adore être dans l'endroit où je bois des coups, non pas le théâtre de la Vure. Le foyer, voilà.
Le foyer, oui.
Le foyer, c'est bien son nom.
Où il y a le bar.
Théâtre. Voilà, là où il y a le bar.
C'est ça.
Et la petite terrasse où on peut fumer et voir la ville magnifique. Je suis impatient. Hein. Chloé est en face de moi. Elle me souffle si jamais je dois dire une ânerie. J'en dis quelques-unes, vous le savez, Emmanuel.
Pas du tout, jamais.
J'en dis parfois.
Jamais. Jamais avec nous, en tout cas. Des grands moments, il va y en avoir avec le 23 août, le festival qui ouvre ses portes, avec Jackie Berroyer qui lira Russell Banks. Et le 25...
C'est une nouvelle magnifique.
Ouais, un membre permanent de la famille de Banks. Et Mathieu Amalric aussi qui lira Le Lambeau de Philippe Lançon. C'est un événement attendu, cette lecture-là.
Ah oui, celui-là, ça risque d'être... Ça va être magnifique. Mathieu était déjà venu l'an dernier.
Oui.
C'est l'an dernier, hein. Et il avait fait une lecture absolument époustouflante d'un texte qui n'était pas simple, qui est très... Enfin, je trouve magnifique à lire, mais pas évident à à faire partager, il s'en était sorti. Alors, Le Lambeau, c'est très, 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 très casse-gueule, parce que c'est un livre très, très personnel.
Ouais.
C'est très délicat comme sujet, je pense que, bon, ça c'est, oui, je pense que c'est très attendu, mais Mathieu est tellement génial que je pense qu'il faut le lire avec sincérité, sans effet de manche, sans appuyer, sans, voilà, je pense que c'est un livre, là je pense qu'on verra la force du livre. Ouais, il y a beaucoup d'autres choses, il y a même Valérie qui me fait un petit plaisir, qui vient lire un japonais, Fuki no To.
Oui, Valérie Bonneton, ouais, qui viendra Valérie lire un japonais.
Ouais, c'est cette petite joie de venir ça. Et il y a Marianne Delicourt qui revient aussi pour tout ce que nous allons savoir.
Bon, il faut aller au festival de Namur. Puisque l'on parle d'intimité, Benoît Poulvorde, il y a un grand réalisateur qui est mort il y a quelques jours, c'est Jean-Pierre Mocky. Vous n'avez jamais tourné avec lui, mais il vous aimait beaucoup.
Oh, il m'en a proposé plusieurs.
Hein. Mais oui.
Ouais, je l'ai croisé plusieurs fois, Jean-Pierre. Enfin, je l'appelle Jean-Pierre, Monsieur Mocky. Et je l'ai croisé plusieurs fois. Il m'en a proposé plusieurs, mais j'ai travaillé trop. Et voilà, oui, nous a quitté Jean-Pierre, oui.
Et Peter Fonda aussi, dont on a appris la mort aujourd'hui. Easy Rider, c'est un film qui vous a inspiré, qui vous a plu, Benoît Poulvorde?
Moi, pas du tout, non.
Non.
Non, enfin, si je dois être honnête avec vous, non, pas du tout, Emmanuel.
Bon.
La moto ne m'attire pas du tout. Et je dois dire qu'à l'époque où je suis sorti, non, c'était pas vraiment ma tasse de thé.
Non. Vous n'êtes pas fan.
Et je ne suis pas persuadé que ça m'intéressera encore maintenant. Quelles que soient les qualités de Monsieur Fonda. Mais les deux types à moto, non, ça ne fait pas rêver.
Non.
Je ne suis pas fan des motos, voyez-vous. Donc, la route 66, ça va jamais se vibrer. Donc, je ne suis pas un grand fan, non. Pardonnez-moi, hein, si
bon.
Vous avez dit dire oui, parce que vous auriez
fait
un accrochage un petit peu savant, mais là non, le vieux diesel, donc je ne suis pas jeudi.
Bon voilà, c'était notre hommage à Peter Fonda sur France Inter ce soir.
Hommage à Peter, mais que par ailleurs, j'aime beaucoup. Hein.
Ah bah oui.
Je suis pas, maintenant qu'il est parti, il va se découvrir des tas d'amis, Emmanuel.
C'est sûr.
Je ne le connais pas très bien, Je connais mieux la gymnastique de sa sœur.
Oui, John Fonda.
Je pratique assez régulièrement, d'ailleurs...
Bon.
Je vais en faire juste après votre coup de téléphone.
Très bien, mais c'est parfait, on vous laisse à la gymnastique. Merci beaucoup Benoît Poulvorde.
Merci
Emmanuel.
Merci d'avoir parlé de notre festival. Je vous embrasse, Chloé se joint à moi.
Oui, on vous embrasse aussi.
Longue vie à vous, longue vie à votre émission et reposez-vous un petit peu quand vous aurez terminé.
Oui.
Et longue vie à l'Intime Festival.
Promis, merci. L'Intime Festival.
Merci d'avoir reçu.
C'est à Namur en Belgique, du 23 au 25 août. Au revoir Benoît, merci beaucoup. On va donc terminer cette émission avec un hommage à Peter Fonda, mort hier à l'âge de 79 ans, icône de la contre-culture américaine des années 60, acteur culte grâce à son film Easy Rider. Voici Born to be Wild qui va sans doute vous rappeler des souvenirs. Merci d'écouter France Inter.
Smoking lightning, heavy metal thunder, racing with the wind, and the feeling that I'm under. Yeah, I gotta go make it happen. Take the world in a loving embrace. Fire all of your guns at once and explode into space. Guns at once and
Voilà, c'est la fin de cette émission sur cette musique du groupe Steppenwolf et cette BO du film Easy Rider. Je vous retrouve sur Facebook, Twitter et Instagram. À la rédaction, Stéphanie Valois avec Swann Blanchet et Victor Porin. À la réalisation, Anna Bui avec Charles Leca et Florent Beauvallet. Thierry Dupin à la prog musicale. Samedi prochain, pour la dernière du club estival, nous serons en direct du festival Rock en scène avec plein d'invités et des surprises. C'est la tradition depuis Escale Estivale de finir la saison à Rock en scène, donc nous respecterons cette tradition. On se retrouve demain à 18h avec la librairie francophone estivale. Nous irons en Arménie, nous parlerons aussi photographie avec Annie Dupéré, miel et vanille avec deux producteurs de Nouvelle-Calédonie et de La Réunion. Et puis nous serons avec le prix Nobel de la paix, Denis Mukwege. Bonne soirée.